Et sans plus tarder, je vous invite à tourner en Hébreux chapitre 3 et verset 13. Et ce matin, nous allons regarder ensemble ce que la Bible mentionne, l'exhortation. Qu'est-ce que l'exhortation ? Il est écrit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Rien que dans ce verset ici, on pourrait développer tout un message, n'est-ce pas, à propos de l'exhortation réciproque, quand, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, et le but de l'exhortation, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Mais en fait, ici, le verbe est à l'impératif, et Dieu nous commande, au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, de nous exhorter les uns les autres. En fait, l'expression « les uns les autres » se retrouve, j'ai calculé ça une fois dans la Bible, 35 fois. Et vous savez que Dieu nous appelle à quoi ? À nous aimer les uns les autres. À ne pas nous juger les uns les autres, à nous accueillir les uns les autres. J'en donne quelques-uns. À nous saluer les uns les autres, à nous attendre les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, à nous instruire les uns les autres, à nous consoler les uns les autres, à nous édifier les uns les autres. Et puis on pourrait certainement en trouver d'autres. En fait, il y a 35 fois au moins au pluriel les uns les autres. Pourquoi ? Parce que Dieu ne bâtit pas l'Église seulement sur quelques personnes. Ce que Dieu veut, c'est bâtir l'Église avec toutes les membres. L'Église, c'est chacun de nous ici. C'est pas le pasteur qui prêche, c'est pas celui qui dirige en avant. C'est chaque brebis, c'est chaque pierre vivante de cet édifice que Dieu veut voir grandir, se développer, croître en grâce et porter du fruit, rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu nous exhorte ce matin à pratiquer l'exhortation. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons les uns les autres, responsables les uns des autres, que nous veillons les uns sur les autres, et que nous puissions ainsi vivre dans un corps où les membres prennent soin les uns des autres. Amen. Non, ce n'est pas simplement le rôle du pasteur, c'est le rôle de chaque membre qui a une place dans le corps où Dieu veut qu'il prenne soin des autres. C'est la volonté de Dieu qu'on prenne soin les uns des autres. En fait, ce matin, bon, je fais des PowerPoints. C'est dangereux, les PowerPoints, parce que tout le monde est là, crusté, n'est-ce pas, ce que tu écris, et puis ça devient un peu technique. Mais j'espère que surtout vous allez retenir le message, n'est-ce pas, et qu'il y a derrière ces points, bon, peut-être vous avez besoin d'avoir la classification, les points qu'on va regarder ce matin. Mais on va parler de l'importance de l'exhortation, le ministère de l'exhortation, la nature de l'exhortation, la raison de l'exhortation, les moyens d'exhortation, les manières d'exhorter, et puis les sujets d'exhortation. Est-ce qu'on va arriver à passer au travers de cela ? On va voir. Mais Dieu nous appelle à nous exhorter les uns les autres. Et en fait, Paul dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Quels sont les trois aspects du ministère que Paul veut que Timothée développe dans sa vie de pasteur ? Premièrement, la lecture. Deuxièmement, l'exhortation. Troisièmement, l'enseignement. C'est donc que l'exhortation est un ministère important dans la vie d'un serviteur de Dieu. Qui plus est, on retrouve dans la Bible, « Exhortez-vous les uns les autres ». Donc aussi, ce ministère est important dans la vie de l'Église qui doit être exercée les uns vis-à-vis des autres. Je me souviens un jour, et c'est pour ça que ça a enclenché pour moi l'idée de faire une étude sur l'exhortation dans la Bible, il y a un chrétien bien intentionné dans l'Église où j'étais le pasteur à Québec, il m'a dit « Oh, celui-là, je vais aller le voir, je vais l'exhorter ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il entend par là ?» Des fois, le langage qu'on emploie n'est pas tout à fait ni dans la manière de faire, ou peut-être le mot exact, n'est-ce pas, qu'on trouve dans la Bible, ou que l'on prend le mot, puis qu'on le vit différemment. Je vais l'exhorter. Mais c'était un frère qui avait vraiment un cœur de faire du bien. Je me suis dit, il a l'air convaincu et qu'il faut qu'il aille exhorter. On n'a pas trop souvent dans notre langage ici, entre nous, écoute, je vais t'exhorter. Est-ce que je peux t'exhorter ? En fait, dans la Bible, il y a abondamment la place à l'exhortation réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on trouve même en Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, il est écrit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, ainsi de suite, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. » Il y a donc des gens qui semblent avoir un don dans l'Église pour exhorter, qui ont un ministère d'exhortation, qui ont donc le don de l'exhortation. Maintenant, comment devrions-nous l'exercer, le ministère? Alors, tout simplement dire une chose. S'il y a un ministère d'exhortation, c'est que nous avons besoin d'être exhortés. Est-ce que nous nous laissons exhorter par le Seigneur et par les autres? Et est-ce que nous désirons exhorter les autres? Certainement, il y a un don particulier d'exhortation, mais est-ce que nous pratiquons l'exhortation réciproque? Donc, nous avons besoin de savoir que nous avons besoin d'être exhortés. Est-ce que nous l'acceptons? Et nous avons besoin aussi d'apprendre à exhorter les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire exhorter? On va y venir dans un moment. En fait, même la Bible dit qu'il y a un certain Joseph, pas de l'Ancien Testament, du Nouveau. Peut-être quelqu'un a déjà découvert où je veux en venir. On a transformé son nom et on l'appelait Barnabas. Qu'est-ce que ça signifie Barnabas? Le fils de l'exhortation. Barnabas était un homme qui avait ce don d'exhorter. Et lorsqu'il est allé à Antioche, il est allé à Antioche justement pour exhorter les chrétiens à s'attacher au Seigneur, les jeunes croyants. Il avait un don d'édification, un don d'instruction, un don qui fait du bien aux frères et aux sœurs, un don d'exhortation. Et du coup, on l'a appelé le fils de l'exhortation. Alors, j'aimerais vous lire rapidement, parce que je ne l'ai pas mis ici, sur le PowerPoint, en Romains, chapitre 15, et verset 14, par exemple, il est écrit ceci, il est écrit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres. Dieu s'attend à ce que les frères et sœurs s'exhortent les uns les autres, qu'ils aient cette capacité. Mais d'où vient la capacité de l'exhortation et d'exhorter les autres, si ce n'est Dieu lui-même? Donc Dieu nous demande à mûrir, à avoir assez de maturité chrétienne pour discerner et savoir comment exhorter dans l'Église. En Colossiens, chapitre 3, verset 16, c'est le verset suivant, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, comment en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, cherchant à Dieu dans vos cœurs, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et puis précédemment, je vous ai lu le verset, il dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On dirait que l'exhortation est quelque chose qui devrait se vivre dans l'Église à chaque jour. Donc pour exhorter les autres, ben il faut communiquer avec eux. Il faut les rencontrer, il faut vivre avec eux, il faut passer du temps avec eux, il faut vivre une certaine communauté, pas être des individualistes. Certains disent, mais moi c'est Dieu qui m'exhorte. Oui, mais si tu exhortes certainement, Dieu t'appelle aussi à exhorter les autres. Dieu veut qu'on s'exhorte les uns les autres. Dieu ne nous demande pas de vivre chacun dans notre bulle avec nos difficultés, qu'il n'en a pas, nos problèmes, nos obstacles, nos combats spirituels. Il veut que nous partagions notre vie. Et soyons assez honnêtes pour dire que parfois, on a besoin d'abattre les masques de notre orgueil. Parce qu'on n'ose pas dire vraiment ce qu'on vit. C'est une fausse humilité, ça. Il faut apprendre à vivre clairement ce que l'on est et ce qu'on vit devant les autres, et à être exhorté, puis peut-être à exhorter aussi les autres. Chaque jour, donc Dieu nous appelle au travers ici de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à exercer ce ministère chaque jour. Donc Dieu s'attend à ce qu'on soit en contact avec les frères et sœurs chaque jour, d'une manière ou d'une autre. De ne pas être vivre isolé, mais de dépendre les uns vis-à-vis des autres. De nous soutenir les uns les autres. On n'est pas ici une église où on vient le dimanche matin avec un numéro d'individu, puis on repart avec un numéro d'individu. On vient à l'église parce qu'on est un corps. On veut sentir les frères et les sœurs. On veut savoir qu'est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils se trouvent avec le Seigneur. S'ils ont besoin d'être encouragés, s'ils ont besoin d'être exhortés, s'ils ont besoin d'instruction, d'être peut-être même repris. On a besoin les uns des autres. Est-ce que nous passons du temps avec les frères ou les sœurs où nous jouissons plus du monde que de la communauté chrétienne? Quelles sont nos priorités? Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 11, par exemple, il est écrit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Le ministère d'exhortation n'est pas optionnel dans une église. C'est un ministère que Dieu veut exercer au travers de tous les frères et sœurs. Je veux dire, moi, j'ai pas tel don, etc. Oui, mais Dieu veut que vous soyez encouragés pour encourager les autres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et même Hébreux, un autre passage, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je me souviens, jeune pasteur à Québec, quand je voyais pas quelqu'un à l'église le dimanche matin, vous savez ce que je faisais? Mais je l'appelais dans la semaine. Je dis, tiens, t'étais pas là dimanche. Alors, un peu rusé, je dis, oui, mais t'étais peut-être malade. J'essayais d'être un peu, n'est-ce pas, diplomate dans mon approche. Jusqu'au jour, j'ai compris, mais quand même, je peux pas poursuivre toutes les brebis qui sont pas là. Quelque part, même si j'ai un cœur d'amour et de pasteur, ça a l'air de les mettre sous la loi. Mais est-ce qu'on veille aux absents? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a parfois des gens qui commencent à s'absenter de l'église? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on va vers eux? Ah non, mais le pasteur, il est payé pour cela. C'est la responsabilité du pasteur de faire ce job. Non, frères et sœurs, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que la tâche et le ministère de l'exhortation, c'est une tâche qui s'étend à tout le monde. Nous devons veiller les uns sur les autres parce qu'on est sous une même tête qu'est Christ et on est frères les uns des autres. En Christ, on est membres les uns des autres. Est-ce que nous faisons ce ministère de l'exhortation? Est-ce que nous prenons soin les uns des autres? Vous savez, quelqu'un, ben Lewis, C.S. Lewis, qui a dit ceci, « L'armée du Seigneur, c'est la seule armée où on tue les blessés. » C'est incroyable, parfois, dans les enfants de Dieu, comme il y a un manque d'amour qui fait qu'on ne prend pas soin les uns des autres. On ne peut pas prendre plaisir à quelqu'un qui commence à trébucher, ou qui s'éloigne du Seigneur. On doit au contraire faire tout son possible pour le redresser, l'aider, l'encourager, le soigner s'il a besoin de soins parce qu'il est malade devant le Seigneur, ou alors il est en sommeil spirituel. Mais nous devons veiller les uns sur les autres. Et l'exhortation fait partie de cela. Alors une question, et c'est ma proposition ce matin en quelque sorte, que le Seigneur nous pose. Est-ce que vraiment nous nous exhortons les uns les autres? Est-ce que nous voulons de ce ministère où on le laisse toujours aux autres? Ce sont les autres qui doivent exhorter, prendre soin les uns des autres. Ou est-ce que nous prenons à cœur ce que Dieu nous demande de faire? D'ailleurs, lisez la Bible, le Nouveau Testament, et soulignez dans votre Nouveau Testament toutes les fois où il y a l'expression « les uns les autres », pas simplement même les uns les autres, l'expression réciproque, réciproquement, l'un l'autre. Et vous verrez que Dieu s'attend à ce qu'il y ait vraiment un ministère des frères et sœurs les uns vis-à-vis des autres. Amen. C'est pas fort ça. Amen. Bon, faisons-le, pratiquons-le. Faisons-le. Alors dans Hébreux 3, verset 13, il y a ici l'exhortation à exhorter. En quelque sorte, si vous me permettez, chaque jour, donc on a le camp, on a le but afin d'inviter l'endurcissement du cœur par la séduction du péché. Notre frère a, dans son témoignage, a lu, n'est-ce pas, que il demande à Dieu de veiller sur lui parce que le diable, n'est-ce pas, il est comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Le diable est à nos portes et il essaie de nous faire trébucher, de nous faire tomber. Et c'est par la foi qu'on résiste au diable. Mais on a besoin parfois les uns des autres. Et ceux qui sont séduits par le péché, c'est subtil le péché. C'est une petite porte entrouverte, n'est-ce pas, qui tout d'un coup donne accès à beaucoup de choses dans la vie du croyant. On doit veiller à ce que ce petit accès soit arrêté parce que la séduction du péché endurcit le cœur. Et c'est terrible parfois de voir un cœur qui est endurci, qui est plus capable de lire la Bible, qui est plus capable de prier, de louer le Seigneur, de témoigner du Seigneur. Quand il y a l'endurcissement du cœur, il y a l'éloignement de Dieu parce qu'il y a la séduction du péché et c'est le problème du péché dans la vie du croyant. Alors nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres. J'ai relevé ici qu'il y a plusieurs mots à partir du même mot grec, hein, d'ailleurs qui a donné Ces deux mots grecs, en fait, exhortés par akaelo, c'est l'idée d'être à côté. Kaelo, c'est d'appeler. L'idée, c'est que exhorter, c'est d'être à côté de quelqu'un pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir l'enseigner, le reprendre, le discipliner, le fortifier, le consoler, le conseiller, en fait, l'encourager. Or, il se trouve dans le Nouveau Testament, quel est le rôle du paraclète ? C'est un autre mot aussi, du même mot grec pratiquement. C'est le Saint-Esprit qui se tient à nos côtés pour faire ce ministère d'exhortation. Donc quand il n'y a pas d'exhortation dans l'Église, les uns vis-à-vis des autres, qu'est-ce qui manque ? Il manque la vie de l'Esprit. Soyons honnêtes entre nous. Lorsqu'il n'y a pas la vie de l'Esprit, il y a plein de choses qui manquent. Et nous devons apprendre à nous exhorter les uns les autres. Et principalement, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le ministère de l'exhortation, on le voit dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement l'encouragement. Donc quand notre frère du Québec disait « je vais aller l'exhorter », il voulait dire « je vais aller l'encourager ». Essentiellement, Dieu veut nous encourager. Puis deuxièmement, en proportion du mot utilisé, c'est « nous instruire, nous enseigner ». Et troisièmement, parce que ça fait partie de l'exhortation, c'est la réprimande, nous discipliner, parce que nous en avons besoin. Et Dieu veut nous discipliner, nous reprendre, et parfois il utilise ce qui nous entoure. Et c'est la raison, notamment, l'exhortation. Une des raisons, il est écrit au sujet de Barnabas, lorsqu'il est allé à Antioche entourer les nouveaux chrétiens, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Le but de l'exhortation, c'est de permettre d'encourager les autres à rester attachés au Seigneur. Donc il faut d'abord soi-même rester attaché. Et pourquoi exhorter les autres à rester attachés au Seigneur ? Parce que rester attaché au Seigneur, ça signifie l'aimer, ça signifie grandir, ça signifie lui obéir, ça signifie s'éloigner du péché, ça signifie le connaître et lire sa parole, ça signifie le suivre, ça signifie vivre de sa vie, vouloir être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, être attaché au Seigneur. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », Jésus a dit en Jean chapitre 15. Et si la sève ne coule pas et si le sarment ne reste pas attaché au cep, eh bien on l'émonde ou on le retranche. Dieu s'attend à ce qu'on ait cette vie en nous. Ainsi, nous pouvons, en tant que frères et sœurs, nous exhorter les uns les autres et avoir une assemblée qui est attachée au Seigneur. Parce qu'il y a des fils de Barnabas en son sein qui veillent et qui exercent le ministère d'exhortation et qui comprennent qu'on est dans un corps et on a besoin les uns des autres et qui veulent faire du bien aux autres. Ça peut commencer dans la prière. L'exhortation peut commencer dans la prière. C'est dans la prière parfois que Dieu met à cœur tel ou tel frère ou sœur qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'une parole ou d'une instruction. Est-ce que vraiment nous sommes une famille unie ? Est-ce que nous allons fêter nos 10 ans, notre 10e anniversaire ? Mais est-ce que ça va vraiment être une fête ? Certainement. Mais la fête, c'est Jésus. C'est Jésus dans nos vies. C'est à lui qu'on doit rester attaché et vivre pour lui. Alors, le Seigneur utilise toutes sortes d'instruments nous exhorter. Il y a tout d'abord son Esprit, parce que c'est un des rôles principaux de l'Esprit Saint, de nous exhorter. C'est pour ça que, par exemple, le psalmiste dit, au psaume 16, verset 7, il dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte ». S'exhorte, c'est extraordinaire, cela. Moi, j'aime être exhorté par le Seigneur. Vous savez pourquoi ? Parce que j'en ai besoin. D'être encouragé, d'être instruit, d'être conseillé, d'être dirigé. J'ai vraiment besoin d'être exhorté par le Seigneur. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, c'est la même chose pour vous. Le Saint-Esprit vous encourage parfois, non ? J'ai presque envie de vous dire, de vous demander ce matin, quels sont ceux cette semaine qui ont été encouragés par le Seigneur ? Pourriez-vous lever la main ? Ah, c'est merveilleux ! Le Seigneur vous a encouragé, mais il m'a encouragé aussi dans sa grâce et miséricorde. Nous avons besoin d'être encouragés par le Seigneur et Dieu utilise le Saint-Esprit. Il utilise aussi sa parole. Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation car je vous ai écrit brièvement. Alors on pourrait développer cela, Mais la parole de Dieu nous exhorte constamment, nous fait du bien. Ça vous est jamais arrivé d'être découragé, de lire les psaumes et de voir exactement l'état d'âme de David, exactement comme vous vivez. Ah oui, mais si David a vécu ça, et puis de voir tout d'un coup l'encouragement que Dieu, tout en même temps qu'il prie, qu'il expose au Seigneur sa détresse, Dieu l'encourage, il commence à louer le Seigneur, puis finit par l'adorer. C'est ça les psaumes. Ben c'est la même chose dans nos vies, non? Ça vous arrive jamais d'être découragé? Et puis tout d'un coup, vous lisez la parole, vous tombez sur une promesse de Dieu. C'est pour ça que souvent, on exhorte les jeunes croyants, et puis même on devrait exhorter tout le monde à prendre sa Bible et à souligner dans la Bible les promesses, les paroles qui vous touchent. Et de temps en temps, lisez, tournez dans vos Bibles et regardez tout ce que vous avez surligné en jaune, en rouge, en vert, peu importe. Mais l'idée, c'est que Dieu vous a parlé. Et quand Dieu vous a parlé, il vous a touché. Et ça vous a fait du bien. Et faites-vous du bien de temps en temps en relisant les versets qui vous ont encouragé. Et puis aussi, il y a un autre passage qui parle des serviteurs. Par exemple, Tite 1, verset 9. Vous voulez tourner dans vos Bibles ? Allez, Tite 1, verset 9. Tite 1, verset 9. Il faut que l'évêque, alors ça parle de l'évêque, bon, de l'ancien, le pasteur, c'est intermittent, interchangeable dans le Nouveau Testament, il faut qu'il soit, verset 8, Tite 1, verset 8, qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter. Voyez-vous, l'exhortation chez le serviteur qui veut exhorter vient de la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il connaît Dieu, et plus il connaît Dieu, plus il va pouvoir donner conseil aux autres de la part de Dieu. Donc l'exhortation vient d'une bonne connaissance, d'un attachement attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc le niveau de qualité de notre exhortation va dépendre de notre connaissance de Dieu et de sa parole. L'apôtre Paul faisait un premier voyage, et souvent les missionnaires, les voyages missionnaires, l'apôtre Paul sont là pour exhorter, d'abord pour gagner, et puis il faisait un premier voyage, puis il en faisait un deuxième, un troisième, pour toujours encourager. Il y a un acte 20, par exemple, et si vous tournez à un acte 20, et versets 1 et 2, « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et après les avoir exhortés, pris congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. » Écoutez, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la dernière fois où vous avez dit une parole d'encouragement à un frère ou une sœur? Bon, je ne parle pas de votre conjoint, et j'espère que nous qui sommes mariés, nous pratiquons cela. Mais quelle est la dernière fois où vous avez dit un mot d'encouragement? Ou par téléphone, ou juste en voyant quelqu'un à l'église? Est-ce que quand on se réunit le dimanche matin, on a des paroles d'encouragement envers les autres? Certainement, j'espère. Mais est-ce que nous pratiquons ces paroles d'encouragement? Et nous avons vu en Colossiens 3,16 notamment, si vous regardez à nouveau le passage, pourquoi pas dans vos Bibles, hein. Colossiens 3,16, c'est un passage merveilleux. Il dit que la parole de Christ demeure en vous. Dans toute sa richesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Comment? En toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, il y a toutes sortes de façons d'exhorter. Une parole de sagesse, pourquoi pas un partage d'un psaume, même peut-être que là, les psaumes, c'était des psaumes chantés, des hymnes, sous l'inspiration peut-être d'un cantique. Il y a différentes façons avec lesquelles le croyant peut être exhorté, et c'est le but, un des buts de l'Église d'ailleurs, et du culte, de s'exhorter, de s'encourager les uns les autres, et de s'instruire. Et puis il y a les manières d'exhorter. Alors la raison de l'exhortation, je devrais changer, excusez. Je pense que je recule là, non? La manière d'exhorter. En 1 Timothée 5, verset 1 et 2, la Bible dit, Paul dit que Timothée doit exhorter avec respect, avec en toute pureté. Je vous lis les passages brièvement. De Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Il ne faut pas arriver devant quelqu'un, écoute là, Je vais t'exhorter, soyons doux le plus possible, n'est-ce pas ? Tite 2,15, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors il y a peut-être un art de le faire. C'est pas de dire directement, écoute, je vais t'exhorter, là, t'en as besoin, ou de louvoyer, mais est-ce que quand quelqu'un s'approche de nous et veut nous communiquer quelque chose, est-ce qu'on est attentif ? Parce que vous savez, quand on refuse d'écouter, on refuse d'être exhorté souvent. Parce que Dieu parle au travers des frères et sœurs. Mais est-ce qu'on les écoute quand ils veulent nous parler ? Alors peut-être qu'ils ne parlent pas de la bonne façon, bon, ça peut être un obstacle, mais est-ce qu'on on est attentif à ce que veut dire nous dire les frères et sœurs ? En toute sagesse, il faut de la sagesse. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Vous voyez, l'apôtre Paul était toujours en train de fortifier, d'exhorter. Il avait à cœur que l'Église se bâtisse et que les frères et sœurs bâtissent leur vie pour bâtir l'Église et glorifier Jésus-Christ. Les sujets d'exhortation, je les ai notés ici, vous les avez donc sous vos yeux, devant vos yeux plutôt. Mais en Actes chapitre 27, verset 20, Paul, il exhorte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, au travers surtout de la plume de Paul et quelquefois de Pierre, il y a l'expression « je vous exhorte ». Je vous exhorte. Peut-être vous allez maintenant regarder dans votre Nouveau Testament, en lisant de façon systématique, toutes les expressions les uns les autres, l'un l'autre, où « je vous exhorte », l'exhortation, « je vous exhorte ». Qu'est-ce que Paul dit ? « Je vous exhorte à prendre courage ». En Romains chapitre 12, il exhorte les croyants à offrir leur corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Et puis 1 Pierre 2, 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc Paul exhorte les croyants à vivre dans la sainteté. Et puis un Éphésiens 4, verset 1 à 3, Paul dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il exhorte à marcher de manière digne. Et puis Philippiens, à être de même sentiment. 1 Corinthiens 1, 10, à être tous de même langage, donc il exhorte les croyants à être unis dans l'Église. Et puis Romains 15, verset 30, ça je pense que c'est pour nous là ce matin. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et puis 1 Timothée 2, verset 1 à 2, « Je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières. » Est-ce que notre vie de prière est stimulée? Mais est-ce qu'on est stimulé par les autres? Est-ce qu'on a des exemples des hommes et des femmes de prière dans l'Église qui viennent vous voir, oui, j'ai prié pour toi, ou j'ai prié pour ça, regarde, Dieu m'a exaucé. On a besoin d'entendre cela. Moi, j'ai besoin d'entendre comment Dieu vous édifie et puis répond à vos prières. Est-ce que vous avez vraiment une vie de prière ? Je me souviens, on a passé 5 années avec FBA. Et le dernier cours, ça s'appelle le cheminement de la foi, qui est un devoir que tous les étudiants doivent faire. Alors, des fois, il y a 10, 11, une fois, on était 17 dans le cours, et d'écouter la façon avec laquelle Dieu a travaillé, a béni les étudiants dans leur cheminement de foi, dans leur croissance spirituelle, comment le cours a eu un impact dans leur vie. Mais c'est un encouragement extraordinaire, comment Dieu agit dans la vie des autres. Si vous avez une richesse spirituelle parce que Dieu vous a fait du bien, eh bien, partagez avec d'autres. Gardez pas votre richesse, partagez-la avec d'autres. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Paul dit, je vous exhorte à prier. Venons prier le mardi soir, notamment, mais prions tous les jours. Et puis Paul en Thessaloniciens, il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alors l'amour, on pense à un moment donné que, bon, on a une dose pour nombre de personnes et puis une quantité par personne, et on dirait que mais là Seigneur c'est rempli là, et Dieu nous dit encore de plus aimer encore. Au moment où on pense que on a assez aimé, est-ce qu'on peut dire qu'on a assez aimé dans sa vie? Dieu nous dit qu'il faut encore abonder dans l'amour. Autrement dit, il n'y a pas de limite à aimer, il n'y a pas de limite, et la limite c'est Christ. Alors, est-ce que Christ est limité? Non, il est éternel, il est infini. Donc, l'amour de Christ est infini. On n'a jamais, on ne peut jamais dire, j'ai plus besoin d'aimer. C'est un engagement, l'amour. C'est un engagement dans l'Église de s'aimer les uns les autres. Et puis même l'apôtre Paul en Thessaloniciens, je vous le lis, il exhorte les gens à travailler. Vous allez me dire, comment ça? Ben oui, il dit, et c'est ce aussi que vous faites envers tous les frères de la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus de sincèrement et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Parce qu'il y avait des paresseux. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des paresseux. Et Paul dit, même chez les croyants, s'il y a des paresseux, ben je vous exhorte à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisez honnêtement vers ceux du dehors, parce que Dieu ne veut pas que certains profitent des autres. Tout le monde a sa tâche, et c'est pareil dans l'Église. Ce n'est pas certains qui font rien et les autres qui font tout. Ce n'est pas une bonne vision de l'Église, cela. La vision de l'Église, c'est que nous sommes appelés à travailler. Bon, évidemment, ici, c'est un contexte même de travail séculier. Tout le monde doit travailler. Bon, il y a des cas particuliers de chômage, on se comprend, n'est-ce pas? Mais Paul veut qu'on soit travailleur, qu'on ne soit pas paresseux, et que notre vie ne soit pas faite de oisiveté, de paresse, mais de travail. Et je vous exhorte donc, dit Paul, à travailler, et à travailler fort. C'est ce qu'on lit dans le texte ici. Et puis, aussi, Paul nous exhorte à avoir du zèle. C'est pourquoi je t'exhorte, il dit à Timothée, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Enfin, je pense que de vivre avec Paul, quelque part, ça ne devait pas être de tout repos. Parce que je pense qu'il était toujours en train d'exhorter les uns et les autres. Et puis j'aimerais, tant mieux, on finit pratiquement à l'heure. Conclusion, qu'est-ce que dit les actes des apôtres ici? Pierre dit en Actes chapitre 2, « Repentez-vous ». Puis un peu plus loin, il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Non seulement l'exhortation est un ministère qui doit s'exercer au sein de l'Église, entre les frères et sœurs, qui que nous soyons, nous devons accepter de nous laisser exhorter, reprendre, encourager, conseiller, etc. Et nous devons aussi accepter d'exhorter les autres, donc de conseiller, d'instruire, encourager, reprendre, voire discipliner. Mais aussi, nous devons apprendre à exhorter le monde qui est perdu. À quoi faire? À connaître Jésus-Christ, à se repentir. Est-ce que ce ministère d'exhortation brûle dans notre cœur parce que nous voyons que le monde est perdu? Et quand on voit quelqu'un qui est malade, on n'a pas envie de l'encourager pour que ça aille mieux? Quand on voit le monde perdu, est-ce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose pour le monde perdu? Ou alors on laisse la maison brûler avec les flammes alors que les gens crient à l'intérieur, on les laisse mourir comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont mourir sans le Seigneur et vont entrer en enfer pour toujours. Séparés de Dieu pour toujours. C'est un ministère qui n'est pas optionnel à notre vie. Dieu nous appelle à exhorter, à conjurer le monde à se convertir à lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit en Corinthiens 2, chapitre 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Non seulement le rôle du Saint-Esprit au travers de nous, c'est de nous exhorter les uns les autres en tant que croyants, on a vu quelques aspects ce matin, mais c'est comme si le Saint-Esprit qui habite en nous, qui veut nous remplir de sa plénitude, ne peut pas faire autrement que nous pousser à parler de Jésus à ce monde perdu, de l'exhorter ce monde à découvrir le Seigneur et à être réconcilié. Alors, la question de ce matin, est-ce que nous sommes des fils de Barnabas dans l'Église? Des fils d'exhortation, des Barnabas, des fils d'exhortation. Et est-ce que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ? Est-ce que nous avons ce ministère d'exhortation envers un monde perdu? Prions, s'il vous plaît. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi, je voudrais connaître le Seigneur ». J'ai à cœur de dire ça ce matin. Et de prier pour ceux ou ces personnes, je ne sais pas, sans pousser à le demander. Y a-t-il quelqu'un qui dit « Oui, moi je voudrais connaître le Seigneur ». Pourriez-vous, par un geste simple, lever la main et dire « Oui, priez pour moi, je voudrais connaître le Seigneur ». Les autres, nous restons dans une attitude de prière, humblement, et nous laissons exhorter par le Seigneur. Mais s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi, je voudrais vraiment connaître le Seigneur », pourriez-vous lever la main juste un instant comme cela? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est entre vous et le Seigneur. Hein? Oui. a dit quelqu'un d'autre qui dit, priez pour moi, je voudrais vraiment connaître le Seigneur. Et dans votre cœur maintenant, réfléchissez, chacun d'entre nous, réfléchissons à notre vie. Et c'est quelque chose de sérieux que Dieu vous demande ce matin, parce que cette parole ne peut pas retourner en vain. Et Dieu a promis de faire fructifier sa parole dans nos vies, à chacun de nous. Alors je vais vous poser aussi une autre question. Vous qui connaissez le Seigneur, est-ce que vous avez ce sentiment que vous jouez vraiment ce rôle d'ambassadeur ou non? Ben, je vous invite à l'instant à lever la main, si ce n'est pas le cas, et de reconnaître votre besoin de jouer ce rôle d'ambassadeur. Vous ne le faites pas pour moi, je m'empresse de le dire, mais vous le faites pour le Seigneur. Alors levez la main à l'instant et dites oui, moi je veux jouer ce rôle d'ambassadeur parce que Dieu me le demande. Je ne le joue pas ce rôle d'ambassadeur. Je n'exhorte pas le monde à se convertir, mais je voudrais être témoin, être un ambassadeur pour Christ. Pourriez-vous lever la main et dire oui, priez pour moi. C'est entre vous et le Seigneur. Moi je ne ferai que prier pour vous. Je le désire du fond de mon cœur. Le Seigneur le désire aussi. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont levé la main pour t'accepter de faire une œuvre dans leur cœur. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont levé la main pour dire, priez pour moi, je voudrais être un ambassadeur pour Christ, peut-être un meilleur, un ambassadeur plus aguerri, avec un plus grand fardeau. Seigneur, je te prie pour ces personnes. Je te prie pour moi-même, Seigneur, de m'aider à savoir exhorter. Au nom de Jésus. Amen.